VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 18h30 GMT. On est mardi 3 mars, on est mardi donc 7 mars plutôt, au sommaire. Se mobiliser massivement pour éviter une catastrophe humanitaire en Somalie, c'est l'appel lancé par le patron de l'ONU, Antonio Guterres. 22 migrants sont morts lors d'une fusillade entre groupes de passeurs rivaux en Libye. L'OIM qui donne l'information parle aussi de centaines de blessés. Conditions de vie difficiles pour les 10 000 personnes déplacées à Priya en République centrafricaine.
Le SR a reçu et installé depuis 2014.
Nous y reviendrons plus tard. La Chine qui promet de réagir après le déploiement de missiles anti-balistiques par les États-Unis en Corée du Sud. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Les autorités congolaises prennent acte de la décision prise par la famille de l'opposant historique Étienne Tshisekedi de reporter le rapatriement de sa dépouille en République démocratique du Congo à une date non encore fixée. Le porte-parole Lambert Mende a ajouté que le gouvernement maintient toujours son offre de facilitation d'inhumation en RDC. Cette décision de la famille de l'opposant mort en Belgique est intervenue alors que les autorités de la province de Kinshasa aménageaient un site pour l'inhumation dans un espace spécial du cimetière de Gombe au nord de Kinshasa. Le syndicat de la presse gambienne a protesté ce mardi contre l'agression d'un journaliste par des sympathisants du président Adama Barrow. Les précisions de John Linden.
Keba Djefon du journal privé Foroya a été prise à partie dimanche lors d'une conférence de presse à laquelle participaient notamment le ministre des Affaires étrangères Ousseni Darbo et celui de l'Intérieur Maï Fati selon des témoignages. Le journaliste dit avoir été agressé pour avoir posé une question sur un éventuel éclatement de la coalition formée autour du président Barrow à l'approche des élections législatives. Il a été frappé, puis sorti de la salle par un groupe de militants mécontents, selon son récit. L'attaque contre le journaliste Keba Djefon du journal Foroya est une attaque contre la liberté d'expression, en particulier la liberté des médias, a déclaré Saïkou Djamé, secrétaire général du syndicat de la presse gambienne. Cet acte barbare et illégal n'a pas sa place dans une société démocratique. Nous le condamnons et appelons les responsables des partis politiques, dont les militants ont agressé le journaliste, à prendre les mesures appropriées pour régler cette question, a poursuivi Saïkou Djamé. Plusieurs journalistes ou militants ont dénoncé l'agression de Keba Djefon. Beaucoup ont invité le président Barrow, élu à la présidentielle du 1er décembre face à Yahya Djamé, à éviter les travers de son prédécesseur.
Famine en Somalie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi la communauté internationale à se mobiliser massivement pour éviter le pire. Morgane Guérillec.
Il est possible d'éviter le pire, a déclaré à la presse Antonio Guterres après s'être entretenu à Mogadiscio avec le nouveau président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, élu le 8 février. Nous avons besoin d'un soutien massif de la part de la communauté internationale pour éviter une répétition des événements tragiques de 2011, affirme-t-il. La sécheresse ravage l'Afrique de l'Est et la Somalie est au bord d'une troisième famine en 25 ans. D'après l'AFP, l'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 6,2 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont près de 3 millions qui souffrent de la faim. La Somalie fait face à une sécheresse qui pourrait devenir une famine si nous n'avons pas de pluie dans les deux prochains mois, a averti le président de ce pays privé depuis 1991 de pouvoir central. Les nouvelles autorités de ce pays rongé par deux décennies de guerre et de crises humanitaires à répétition ont décrété fin février l'état de catastrophe nationale et les images de corps émaciés émergent dans les médias, faisant ressurgir le spectre de la famine de 2011.
Le Soudan a condamné la décision du gouvernement américain de le maintenir sur la liste des pays dont les citoyens sont interdits de séjour aux États-Unis. Le premier décret signé le mois dernier par le président Donald Trump avait été annulé par un juge à Seattle. Le Soudan demande également aux États-Unis de le retirer de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Nous reviendrons sur ce nouveau décret sur l'immigration du président Donald Trump dans notre partie magazine. Une fusillade entre des réseaux rivaux de passeurs opérant en Libye a fait 22 morts, des migrants, selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Ces affrontements ont fait aussi une centaine de blessés, Jacques Aristide.
L'OIM s'appuie sur des informations reçues de ses équipes opérant en Libye. Elle estime que les victimes viennent d'Afrique subsaharienne et qu'il s'agit de migrants et non de membres des bandes criminelles impliquées dans l'accrochage. Depuis l'accord conclu il y a un an entre l'Union européenne et la Turquie, la route maritime entre la Libye et l'Italie est devenue la principale voie de migration clandestine vers l'Europe, aiguisant les intérêts des bandes criminelles qui menaient les traversées. Cela suscite toutes sortes d'activités dans le secteur des passeurs et a apparemment conduit à cette violente fusillade, d'après Joël Moulman, porte-parole de l'OIM. Depuis le 1er janvier, près de 16 000 migrants sont arrivés en Italie via la Libye, contre un peu plus de 9 000 sur la même période de l'année dernière. Quelques 3 000 d'entre eux ont été secourus en mer. Dans le même temps, 140 corps ont été rejetés sur les plages libyennes et 477 autres ont péri en mer.
Les médecins kényans ont décidé de mettre fin à plus de 6 mois de grève suite à une médiation de chefs religieux. Les syndicats et le gouvernement doivent donc signer un accord. Les leaders religieux ont décidé d'intervenir après l'emprisonnement de syndicalistes qui refusaient d'obéir à une injonction d'un juge kényan qui leur demandait de négocier avec le gouvernement. Les médecins demandaient une hausse substantielle de leur salaire, mais ont finalement accepté de revoir leurs revendications à la baisse. En 12 mois d'opération, l'Acarius, l'un des principaux bateaux de secours humanitaire qui croise au large de la Libye, a sauvé plus de 9500 migrants d'une noyade probable. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'ONG européenne SOS Méditerranée, l'affréteur du navire. Comme tous les migrants secourus en mer par des bateaux commerciaux ou militaires, ces hommes et ces femmes sont ensuite pris en charge en Italie. Un quart sont des enfants ou adolescents mineurs, 8 sur 10 non accompagnés. 5 mois après les élections législatives, le Maroc est toujours sans gouvernement. Le Parti de la justice et du développement avait largement remporté les législatives du 7 octobre dernier, mais n'arrive toujours pas à former un gouvernement de coalition comme le lui avait demandé le roi Mohamed VI. Il n'y a rien de nouveau dans le processus de formation du gouvernement, a récemment indiqué la semaine dernière donc Abdelilah Benkirane. Il a réitéré sa proposition de reconduire la majorité sortante, une proposition qui ne fait pas l'unanimité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord a affirmé aujourd'hui que ses tirs de missiles balistiques étaient en exercice en vue de frapper les bases américaines au Japon. Face à cette escalade, les condamnations ne se font pas attendre. La presse chinoise n'écarte pas la possibilité d'une guerre. Salwa Jafari.
Les engins sont tombés dangereusement près du Japon, dans un nouveau défi à la communauté internationale et au président américain Donald Trump. Dr. Matthew Côté de l'Institut international des études stratégiques.
C'est certainement une véritable menace en ce qui concerne la portée des missiles lancés hier. Les 4 missiles balistiques ont une portée maximale supposée d'environ 1000 km, ce qui signifie que les bases japonaises sont certainement à portée de main. Les Nord-Coréens sont certainement capables de frapper le Japon.
Les résolutions de l'ONU interdisent à Pyongyang tout programme nucléaire ou balistique. Mais 6 volées de sanctions n'ont pas persuadé le régime de Kim Jong-un d'abandonner ses ambitions militaires. Ces tirs seraient une réponse aux exercices militaires annuels conjoints entamés par Séoul et Washington la semaine dernière. Donald Trump a affirmé en tout cas lors d'entretiens téléphoniques l'engagement à toute épreuve de son pays derrière ses alliés japonais et sud-coréens, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi à la demande de Tokyo et de Séoul pour discuter de la situation.
Des combattants kurdes et arabes soutenus par Washington se sont retirés de plusieurs villages du nord de la Syrie au profit des forces du régime de Bachar el-Assad. C'est le fruit d'un accord visant à éviter une confrontation avec la Turquie. Un responsable de ces groupes a indiqué que cette mesure a été prise afin de limiter l'expansion turque et d'éviter une effusion de sang au sein de la population civile. Les organisations de défense des droits de l'homme et des groupes d'opposition ont dénoncé une nouvelle loi interdisant l'entrée en Israël à toute personne appelant au boycott de l'État hébreu. Cette loi, votée hier par le Parlement, s'inscrit dans une vaste offensive lancée par le gouvernement de Netanyahou. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Claire Morin-Jubourg.
En Côte d'Ivoire, les premiers essais techniques du barrage hydroélectrique de Soubré, construit par la Chine, vont débuter fin mars. Le barrage devrait être pleinement opérationnel en août. Long de 4,5 km, ce barrage est le plus grand centre de production électrique de la sous-région, avec une puissance de 275 MW. La puissance totale installée de la Côte d'Ivoire est de 1975 MW, fournie à plus de 70% par 4 centrales thermiques et près de 30% par 6 centrales hydrauliques. D'un coût de 331 milliards de francs CFA, le barrage a été financé à hauteur de 15% par l'État ivoirien et de 85% par la Chine. Au Niger, la majorité parlementaire a rejoint l'opposition pour demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour éclaircir les circonstances d'un transfert de 200 milliards de francs CFA sur un compte à Dubaï suite à une vente d'uranium. L'actuel ministre des Finances du Niger, Assoumi Massaoudou, est cité dans cette affaire. L'agence de statistiques éthiopienne a annoncé que l'inflation est passée de 6,1% à 7% en février. Plus inquiétant, l'inflation sur les produits alimentaires, dont le riz et les légumes, est lui passée de 5 à 7,8%.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Huitième de finale retour de la Ligue des Champions ce mardi.
Coup d'envoi 19h45, temps universel. Pas sûr qu'Arsenal croit en un improbable comeback. Défaite ce week-end à Liverpool 3-1. L'équipe londonienne ne se fait guère d'illusions face au Bayern qui l'avait laminé 5-1 à Munich. L'autre rencontre de la soirée, Real Madrid contre Naples. Une défaite pour les Napolitains 3-1 à l'aller. Ça va être dur, d'autant que le tenant du titre peut compter sur le retour dans le groupe de Cristiano Ronaldo.
Et ce mercredi, c'est au tour du Barça de tenter l'impossible.
Oui, le FC Barcelone doit éviter de devenir fou et procéder avec patience mercredi pour tenter de remonter 4 buts de retard face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est ce qu'a estimé ce mardi l'avant-centre Luis Suarez, jugeant ce défi compliqué mais pas impossible. L'autre rencontre mercredi, Dortmund, qui avait été battu 1-0 par le Benfica à Lisbonne.
Ibrahimovic suspendu avec Manchester.
L'attaquant vedette a été suspendu 3 matchs pour comportement violent, c'est ce qu'annonce la Fédération anglaise de football. Le Suédois de 35 ans, qui avait donné un coup de coude à un défenseur samedi en Première Ligue, n'a pas contesté l'accusation. Il est donc automatiquement suspendu avec effet immédiat dans toutes les compétitions domestiques. C'est ce que précise la Fédération anglaise. Ibrahimovic manquera donc l'affiche des quarts de finale de la Coupe d'Angleterre lundi soir contre l'actuel leader de la Première Ligue, Chelsea.
Le CIO à nouveau dans la tourmente.
À moins de 2 mois des visites à Los Angeles et Paris, candidate au JO 2024, la démission du président de la commission d'évaluation, le Namibien Frankie Fredericks, pour des soupçons de corruption, met le CIO sous pression. Dans un article, le quotidien français Le Monde avance que Frankie Fredericks a reçu un versement de près de 300 000 $ le jour même de l'attribution des Jeux Olympiques par le Comité international olympique. C'était à Rio le 2 octobre 2009 à Copenhague.
On termine avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Avec 39 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, Kawhi Leonard a permis aux Spurs de San Antonio de s'imposer face à Houston, 112-110. Finaliste la saison dernière, Golden State a confirmé sa mainmise sur la conférence Ouest. Victoire 119-111 contre Atlanta, 24 points pour Stephen Curry. Et puis dans les autres rencontres de la soirée, les Knicks de New York ont dominé Orlando, 113-105, tandis que les Bulls de Chicago ont une nouvelle fois trébuché, cette fois face à Détroit, 95-109.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour, conditions de vie difficile pour les personnes déplacées du site du PK3 à Bria, au centre de la République centrafricaine. Elles sont plus de 10 000 à se réfugier dans ce camp de fortune. Reportage de Freeman Sipila.
Plus d'une vingtaine d'ex-combattants, hommes et femmes, sont mobilisés ici aux abords de la Coteau, le grand cours d'eau de la région. Certains fabriquent des briques, d'autres entassent du sable sorti de l'eau. Ces matériaux ont déjà servi et serviront encore à la construction de certains bâtiments dans la ville. David Didier Datila, premier superviseur du groupe.
Dans le cadre de cette opération, nous avons construit une case de passage à l'aéroport. Depuis 1976, c'est pour la première fois que nous avons construit une case de passage à l'aérodrome de Bria. Et en plus de cela, j'ai fait une demande. On a construit une mosquée au quartier Isandele 7. Et on a réparé un peu l'église de Isandele 4. En plus de cela, on a construit deux maisons de chefs qui étaient détruites par les événements. On a réparé les caniveaux, les nettoyages des bâtiments de service, la préfecture, la gendarmerie et la police, etc. etc.
Yamende Chantal, Gouné Dako David, Goto Chancelin, Adjibay Habay.
Un contrôle physique de chaque élément est fait par les responsables. Le projet Pré-DDR est initié à Bria en octobre 2015 par la MINUSCA. Ici, les bénéficiaires perçoivent chaque deux semaines une somme plus ou moins à 30 000 francs CFA. Cette initiative a positivement impacté leur comportement. C'est ce qu'explique le superviseur.
Après toutes ces périodes-là, il y a beaucoup de changements. Les combattants constatent un léger changement. Il y a le calme, d'autres font l'air épargne. Leurs activités sont bien d'ailleurs. Ils sont bien assis. Il n'y a pas de braquage dans les quartiers. Il n'y a pas de banditisme. D'autres, ils sont concentrés seulement à cette activité.
Khadidia Catherine a combattu dans l'ex-rébellion de la Silica avec cette activité de pré-DDR. Elle explique n'avoir plus l'envie de reprendre les armes.
Nous vivons mieux aujourd'hui. Nous avons décidé de déposer les armes pour retrouver la paix. Nous allons apprendre de nouveaux métiers pour soutenir nos familles. Par exemple, pour nous les femmes, on peut apprendre la couture. Je ne reprendrai plus les armes. À présent, je me considère comme civile.
Il y a encore quoi déjà civile.
Plusieurs modules sont au menu de la formation proprement dite, prévue pour démarrer au mois d'avril prochain. Chaque ex-combattant suivra des cours de son choix, notamment dans le domaine de la mécanique, de la menuiserie, de la maçonnerie, de la couture, de l'informatique ou encore de la création des activités génératrices de revenus. Freeman Sipila, Bria, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
On reste avec les réfugiés centrafricains, mais cette fois, on se rend au Congo-Brazzaville, où quelques 19 500 réfugiés centrafricains accueillis et installés par le HCR depuis 2014 dans le Likwala. Ces réfugiés y cultivent le vivre ensemble entre chrétiens et musulmans. C'est ensemble qu'ils traversent les difficultés liées à l'assistance humanitaire et espèrent, grâce au HCR, rentrer un jour chez eux. Notre correspondant Nguela Ngoussou s'est rendu sur place.
Le HCR a reçu et installé depuis 2014 quelques 19 500 réfugiés centrafricains dans la Likwala, essentiellement dans le district de Betou. C'est à une centaine de kilomètres de Bangui. Malgré l'assistance apportée par les agences humanitaires et les populations congolaises locales, les plaintes ne manquent pas dans les sites, comme ici, aussi du 15 avril à Bétou.
Non, par rapport à l'absence du riz, n'est pas partagé. Le site vraiment est chaos parce que c'est le riz qui anime le site.
Pendant l'événement qui était passé à Bangui, moi j'avais perdu mon mari. Donc moi je suis veuve, c'est pour cela qu'on m'a donné petit riz comme ça, ça peut m'aider avec mes enfants.
Au début seulement comme ça, il n'y a pas de microcrédit, il n'y a pas d'activité, mais nous sommes toujours comme ça.
La plupart de ces réfugiés sont arrivés au Congo-Brazzaville à la suite d'un conflit armé interreligieux. Après 3 années passées à Bétou, la tendance est plutôt à l'unité.
Nous avons essayé de faire plus d'efforts. Aujourd'hui, avec les musulmans, nous mangeons sur la même table, nous cultivons ensemble, on se balade ensemble, on travaille dans les mêmes lieux de travaux.
Bon, la plupart des musulmans sont en quartier parce qu'elles n'aiment pas vivre ici. Oui, c'est bon de causer ensemble, même de vivre ensemble en quartier.
Mon nom qui s'appelle Haroun Zakaria, moi je suis musulman. L'ambiance est bonne entre chrétiens et musulmans, pas de quoi.
Donc ce qui s'est passé au pays, vous avez oublié ici?
Non, on a tous oublié ça déjà, nous sommes bien.
Les réfugiés appellent à la normalisation de la situation. Situation à Bangui pour entamer leur retour au pays.
Là, on est encore dépensé sur notre pays. Donc, il faut prier toujours pour retourner en notre pays.
Si, on est mieux que ce soit en fait. ce qui freine en fait, c'est quoi? C'est le processus de paix qui est en RCA. Vous voyez, la RCA aujourd'hui, bien au-delà de tous les efforts que le système mondial essaie de mettre sur pied, mais le Centrafricain n'a pas encore compris que bon, il faut qu'on arrête de tourner les armes.
Le ACR suit la situation de près, d'après Mohamed Nafian, le chef du bureau du ACR à Bétou.
À l'heure où je vous parle, pour les RCA, ces conditions ne sont pas encore réunies et nous n'avons pas encore fait cette tripartite. Parce qu'il faudra qu'il y ait des go-and-see, des visites, etc. Pour l'RDC, il pourrait y avoir une tripartite pour ce qu'est l'autre, pour voir comment on peut leur faciliter. Mais cette année surtout, nous sommes très sur les réfugiés rwandais, parce qu'il y a une clause de cessation des réfugiés rwandais qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2018. C'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2017, les Rwandais n'auront plus le statut de réfugié.
On dénombre actuellement quelque 35 000 réfugiés dans la région, essentiellement des Centrafricains, des Congolais de RDC, près de 13 000 individus et environ 2 000 Rwandais. Depuis Bétou, à l'extrême nord du Congo-Brazzaville, Nguela Ngoussou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Soudan s'insurge contre son maintien sur la liste des 6 pays majoritairement musulmans visés par le nouveau décret du président américain Donald Trump sur l'immigration. Les réfugiés vivant dans les camps au Kenya, eux, se disent désespérés. Le point avec Timothée de Langbaye.
Le nouveau décret du président Trump suspend pour 90 jours l'admission aux États-Unis des ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans, notamment en ce qui concerne l'Afrique, la Libye, la Somalie et le Soudan. Il gèle pour 120 jours l'arrivée de tous les réfugiés sans distinction d'origine. Khartoum avait amorcé un processus de normalisation avec Washington et la levée partielle par l'ancien président Barack Obama des sanctions américaines avait fait espérer un dénouement rapide de ce dossier, explique Mohamed Nagy, rédacteur en chef de Soudan Tribune, joint à Paris.
Au mois de décembre ou un petit peu avant, le département d'État, il a fait un communiqué de presse où il a loué les efforts de Khartoum. Ils ont commencé par reconnaître donc sa coopération avec les États-Unis dans le contre le terrorisme. Après, il y avait un deuxième communiqué qui saluait les efforts de Khartoum par rapport à permettre aux organisations humanitaires d'accéder aux zones de guerre et avec les rebelles, etc. Donc, jusqu'à maintenant, les deux pays sont toujours en train de travailler pour préparer la levée des sanctions qui doit avoir lieu normalement, si tout va bien, à la fin du mois de juin prochain. Donc, c'est dans cette perspective que Khartoum se pose la question et dit, est-ce qu'il y a un setback, si j'ose dire, en anglais?
Un recul.
Est-ce qu'il y a un recul dans le processus ou qu'est-ce qu'il arrive?
Dans les camps de réfugiés du Kenya, l'inquiétude est vive. Chez Lia Rose, jeune sud-soudanaise de 25 ans, qui vit dans le camp kenyan de Kakuma depuis 15 ans, espérait venir étudier aux États-Unis, puis retourner aider son pays d'origine.
Les personnes désespérées gardent encore espoir, mais cette interdiction leur fera perdre cet espoir. Je ne me sens pas bien parce que je n'aurai pas cette chance, alors que j'espérais l'avoir pour réaliser mon rêve.
Maintenir la Somalie sur la liste noire ne peut que nuire aux efforts antiterroristes contre les militants d'Al-Shabaab, estime pour sa part Mohamed Abdoulaye, étudiant somalien vivant à Nairobi.
Une fois que vous ajoutez la Somalie à la liste, cela renforcera l'idéologie d'Al-Shabaab. Le groupe dira, si les États-Unis qui soutiennent votre gouvernement vous interdit de visiter leur pays, que feront-ils d'autre? Al-Shabaab aura ainsi de nouvelles recrues contre l'Occident.
Diverses organisations de défense des droits humains disent que le nouveau décret du président Donald Trump fait des réfugiés des boucs émissaires et signale aux musulmans qu'ils ne sont pas les bienvenus aux États-Unis.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
La majorité républicaine du Congrès américain a finalement dévoilé hier son projet d'abrogation du système de santé mis en place par Barack Obama. La bataille est donc lancée pour introduire un nouveau texte élaboré avec l'entourage de Donald Trump. Mais déjà, une partie des républicains s'oppose à cette réforme qui ne garantit pas le maintien des acquis d'Obamacare. Pour analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Washington, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
Surtout les démocrates ont tous voté contre. Le problème, c'est que Obamacare a donné l'assurance médicale à 20 millions de personnes qui n'avaient pas une assurance médicale avant. Donc c'est un grand succès pour Obama. Ce projet de loi veut réduire le rôle du gouvernement, c'est-à-dire les subventions surtout. Et il y a des gens qui croient qu'il y a un danger, que ça va obliger certains gens, surtout dans la classe ouvrière, de ne plus avoir une assurance. Donc il y a un grand argument devant nous avant que ce soit loi.
Vous dites que les démocrates ne vont pas approuver cette réforme, mais la première opposition est venue des républicains eux-mêmes.
Je suis sûr qu'il y aura certains républicains qui vont voter contre. Ils vont voter contre le projet de loi comme il est maintenant. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup de changements avant que ce soit loi. De toute façon, le président Trump a promis que les gens ne vont pas perdre leur assurance médicale.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine précipitation de la part des républicains pour opérer cette réforme?
Oui, ils sont allés assez vite parce que c'était une question idéologique de la droite. Mais à mon avis, il fallait commencer avec l'infrastructure. Il y a un grand besoin de réparer des routes, des ponts, des barrages, et ça crée des postes.
John Boehner disait que c'était très compliqué, même impossible de remplacer Obamacare.
Déjà, ils ont gardé certains éléments d'Obamacare. Par exemple, on ne peut pas refuser une assurance maladie à quelqu'un qui était déjà malade. Et aussi, les enfants adultes peuvent rester sur l'assurance de leurs parents jusqu'à l'âge de 26 ans. Et donc, ils vont garder ça, ces éléments importants d'Obama. À mon avis, ils vont finir, pas par supprimer Obamacare, mais par réparer les éléments qui n'ont pas bien marché.
Mais ce nouveau projet supprime l'obligation universelle de s'assurer.
Mais ça aussi, c'est ridicule, parce que si vous supprimez l'obligation de s'assurer, il y aura des gens en bonne santé qui ne vont pas s'assurer. Il y aura seulement les gens malades qui vont s'assurer. Donc, ce n'est pas viable économiquement.
C'était Herman Cohen, joint par Eric Manirakiza. Et c'est donc cet élément qui met fin à ce journal, mis en nom de Michel Joseph et Lumani Sims, à la console Wagner Roberts. Et moi, c'est Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact sur voafrique.com et sur notre page Facebook. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.